Vous écoutez Trouveur d'emploi, le podcast du magazine Management qui répond à toutes vos questions sur la recherche d'emploi. Je suis Christelle Defoucault, auteure et ancienne recruteuse. Chaque vendredi, je vous donne plein de conseils pour vous aider à trouver un job ou un stage. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur LinkedIn, mais aussi sur notre nouveau répondeur au 01 73 05 45 27. Bonjour chers amis de Trouveurs d'emploi. Alors aujourd'hui, je suis super contente parce que je reçois Dorit Nahon, que certains d'entre vous doivent connaître sur les réseaux sociaux et notamment sur le réseau social LinkedIn. Alors, elle va nous parler d'un sujet hyper intéressant parce que c'est une ex-candidate, une ex-chercheuse d'emploi. Elle va nous donner des conseils pour apprendre à recruter son entreprise et à recruter les entreprises en général. Alors, elle a trouvé un job dans une super boîte chez l'Apprenti Weber.
C'est ça, Dorit?
Ouais, ouais. Et elle va nous en parler, elle va nous raconter son histoire. Je vais lui poser des questions et je pense que ça va être vraiment intéressant.
Trouveur d'emploi, le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi. Un programme du magazine Management animé par Christelle Defoucault.
Est-ce que tu peux te présenter rapidement, Dorit ?
Oui, bien déjà, hello Christelle, je suis vraiment hyper fière, hyper contente d'être avec toi aujourd'hui. Donc merci beaucoup pour l'invitation. Je suis fan de ton podcast à la base, quand même, c'est important de le rappeler. Je t'écoutais avec beaucoup d'assiduité à l'époque où je cherchais un emploi.
Peut-être peux-tu préciser aux auditeurs dans quel contexte tu m'écoutais ?
Bien sûr.
Qu'est-ce que tu faisais pendant ce temps-là ?
Bien sûr. Ce que je faisais, c'est que je cherchais un emploi et je faisais la cuisine. Voilà, donc c'est un contexte vraiment un peu farfelu. Je découvre ton podcast et il occupe mes sessions cuisine et j'apprends plein de choses sur les CV, sur le recrutement, l'attitude à avoir, le pitch, etc. Et c'est devenu mon rendez-vous vraiment cuisine avec toi. Et aujourd'hui, d'être là dans le podcast que j'écoutais dans ma cuisine, c'est juste fou. Donc voilà, c'est la vie est dingue.
Ben, écoute, en tout cas, on est ravis de t'accueillir et puis surtout ravis de voir que Trouveur d'emploi s'invite dans les maisons, dans les foyers, dans les cuisines des chercheurs d'emploi et puis les aide dans leur démarche. Alors, peux-tu nous raconter un peu quelles ont été tes démarches, quelle est ta vie et pourquoi est-ce qu'à un moment, tu as décidé de recruter toi-même les entreprises ?
Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est que je trouvais pas du tout de boulot parce que ma recherche portait sur du full télétravail. Et du coup, c'était assez difficile parce que en passant par les job boards habituels, j'avais quelques entreprises qui donnaient suite à mes candidatures, mais qui essayaient plutôt de me convaincre, en fait, si tu veux, de déménager pour être en présentiel un peu partout en France. Et moi, j'ai pas envie. Donc, ils étaient fermés au full télétravail. Donc, concrètement, ça donnait rien. J'avais que des mails de refus automatiques. J'étais sans solution. Et je me suis dit, j'ai rien à perdre. Je vais aller sur LinkedIn et je vais commencer à faire des posts, à raconter mes histoires personnelles aussi, parce que j'ai quand même un vécu assez lourd, on va dire, et peut-être que j'aiderai des gens et qu'au passage je vais intéresser des entreprises parce que toutes les entreprises sont sur LinkedIn, les recruteurs, etc.
Et justement, est-ce que tu peux préciser aux auditeurs quel est ton domaine d'activité?
Ouais,
parce qu'on
ne
l'a
sûr.
Pas dit, quel est ton métier et qu'est-ce que tu recherchais comme job?
Ouais,
et pourquoi
ouais.
Est-ce que tu recherchais spécifiquement à être en 100% télétravail?
Bien sûr, alors moi aujourd'hui déjà je suis directrice artistique et communication digitale pour Apprenti Weber. Donc, mon domaine de recherche, c'était la communication digitale. Et j'étais aussi ouverte au graphisme, mais c'était vraiment dans ces domaines-là. Et alors, le full télétravail, c'est parce que je l'ai expérimenté depuis des années. Et en fait, je suis fan du confort que ça apporte. Moi, je travaille super bien comme ça. Je pense que c'est des choses qu'on a lues, relues, mais on gagne du temps dans les transports, on gagne du temps en qualité de vie, en vie, en rapport, tu vois, vie pro, perso, etc. Donc c'est vraiment une question de confort. Et puis tu vois, je suis vraiment pas d'accord avec les personnes qui pensent que c'est une cassure sociale avec entre les employés. Parce que je te donne un exemple dans une de mes dernières expériences. On était en présentiel au début et avec les collègues, on n'osait pas trop se lever dans l'open space pour se poser des questions parce qu'il y avait les chefs qui passaient, etc. Et finalement, on se parlait très 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 peu. Et quand on était en full télétravail pendant le Covid, on s'appelait tout le temps sur Teams. Tu fais quoi sur ce dossier-là? T'aurais fait quoi à ma place? Et t'en penses quoi, etc. Et on avait beaucoup plus de liens. Donc le lien en full télétravail, il est complètement possible. Mais en fait, il suffit juste de, voilà, de le vouloir et de mettre des choses en place. Et il y a plein d'outils pour ça aujourd'hui, voilà.
Et c'est intéressant ta vision, parce que c'est vrai que ça fait peur à tout le monde, ce télétravail, on a l'impression d'être isolé, alors que toi tu le décris d'une autre manière, et je trouve que c'est vraiment intéressant de voir comment tu l'as appréhendé. Et je pense que ça peut rassurer aussi des gens de se dire, je peux quand même avoir des contacts avec mes collègues. Et j'aime bien cette idée de communiquer en osant, parce qu'on ne va pas se faire regarder par les chefs ou remarquer parce qu'on a osé poser une question. Donc je le retiens pour défendre un jour le télétravail si besoin. Donc là, on a compris ton métier, on a compris ce que tu recherchais, un 100% télétravail. Et je voudrais rajouter une chose, parce que je me souviens que tu avais noté aussi que tu recherchais un CDI.
Ouais.
J'étais venue te dire sur LinkedIn, alors moi un peu donneuse de leçons, je suis vraiment désolée, j'étais venue te dire, attention Dorit, je ne vous connais pas, mais si vous dites que vous cherchez un CDI, vous allez vraiment vous limiter à peut-être 20% du marché, parce que c'est très rare d'avoir un CDI en premier contrat. Et à l'époque, tu m'avais dit, non, mais moi, tant pis, je mettrai le temps qu'il faudra, mais je veux mon CDI, tu confirmes?
Oh, je confirme. Alors moi aussi, je suis quelqu'un de très têtu. Mais en fait, si tu veux, moi, mon aventure LinkedIn, c'est que des partis pris. Donc quand tu fais des partis pris derrière, tu sais que tu vas te fermer des portes, mais tu prends aussi le pari de te dire que tu vas t'en ouvrir beaucoup. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai tenté. Et derrière, en fait, il s'en est suivi cette aventure-là où effectivement, je t'ai dit que je restais sur le CDI parce que je voulais annoncer clairement ce que je recherchais. Et ça a suivi aussi, on va dire, entre guillemets, ma ligne éditoriale, parce que je suis restée dans entre guillemets, tu vois, prise de risque-là, de me dire, voilà, je vais parler de sujets qui vont peut-être... pas plaire à tout le monde. Je vais prendre des positions qui vont pas plaire. Je vais raconter des expériences personnelles. Mais en fait, il y a des boîtes qui vont se dire que ils sont OK avec ça, qu'ils voient en fait mon savoir-être à travers ça. Et ces boîtes-là, du coup, je serai au bon endroit en fait avec eux. Et les boîtes qui vont se dire ça pour nous c'est pas OK et ça nous convient pas, je perds rien. Je perds rien parce que j'aurais pas été bien. Ça veut dire qu'ils auraient pas été en accord avec moi-même, tu vois. Et c'est important pour moi de me dire que je suis bien dans mon boulot quand même.
Alors, ce que je trouve intéressant aussi dans ce que tu dis, Dorit, c'est que ça va à l'encontre de ce que j'ai toujours préconisé dans les épisodes de Trouveurs d'emploi. Et c'est pour ça que je voulais t'interviewer aujourd'hui. Et je voudrais vraiment passer ce message. Je le dis souvent, mais je le redis. Personne ne détient la vérité sur la recherche d'emploi. Il n'y a pas une seule vérité, il y a des vérités. Et c'est lié au cas par cas et aux situations de chacun. Parce que c'est vrai que moi, j'ai tendance à dire, tant que vous cherchez un job, faites un peu attention à ce que vous écrivez, soyez plutôt lisse, ne cherchez peut-être pas un CDI en premier contrat, etc. Parce que j'ai envie que les gens, par exemple, trouvent rapidement un emploi. Maintenant, quand on est sûr de soi, comme tu l'étais, quand on a un peu de temps et qu'on peut se permettre d'oser, je trouve que c'est top d'avoir la démarche qui a été la tienne. Et c'est là que je dis que tu as recruté tes entreprises, tu as été recruteur d'entreprise parce que tu as ciblé l'entreprise qui allait te correspondre, le type de contrat qui te correspondait, les valeurs. Tu insistes beaucoup sur les valeurs. Et si des recruteurs nous écoutent, sachez que ça va être un des premiers critères des candidats, les valeurs de votre entreprise. Et tu as mis en place ta démarche, ta stratégie de recruteur d'entreprise. Alors, je te donne la parole pour que tu continues et que tu nous dises, qu'est-ce que tu as fait exactement?
Ouais, déjà, sincèrement, j'étais pas sûre de moi. Hein. C'est-à-dire que je me suis dit... je vais aider des gens avec mes témoignages, c'est sûr, parce que sur mon LinkedIn, je parle d'expériences professionnelles sur du harcèlement sexuel, sur du burn-out, donc je sais que des gens le vivent ou l'ont vécu, je savais que j'allais aider des gens, mais je me suis dit, quand même, il y aura forcément une boîte qui va se dire... ses valeurs, ce qu'elle défend, etc., ça m'intéresse. Donc... voilà, mais j'étais pas sûre. Je me suis dit, si ça se trouve, toutes les boîtes aussi vont se dire que c'est des sujets assez délicats. Et il s'est trouvé que j'ai fait un post. J'ai eu des sollicitations, je ne te cache pas, à peu près suite à chacun de mes postes, témoignages, mais j'ai fait un post en particulier où j'ai parlé de mes tatouages, en parlant du fait que pour moi, on doit voir les compétences avant l'apparence, et là, ça a été l'explosion. Le post, par exemple, a été sélectionné par la rédaction LinkedIn. J'ai eu plus de 200 sollicitations d'entretien. Pour ce que je cherchais, je précise, pour des CDI en full télétravail. Je ne te parle même pas des propositions de freelance qu'il y a eu aussi derrière, que je ne fais pas pour l'instant. Donc ça a été hyper porteur. Et en fait, c'est super intéressant quand tu parles d'inverser les rôles, parce qu'on était vraiment là-dedans, du coup. Toi qui parlais de choix du roi il n'y a pas longtemps, on est complètement là-dedans. Et en fait, si tu veux, quand tu parlais de valeur aussi tout à l'heure, en fait, c'est ça. Parce que moi, j'ai tellement souffert dans le monde du travail que je regardais l'humain, en fait. Je regardais le projet humain. Et en fait, je te cache pas que moi, j'avais toujours une question en entretien. C'est quoi votre projet humain? Pourquoi vous considérez que votre engagement est humain? Et je vais te dire quelque chose que je trouve assez alarmant. La plupart du temps, les entreprises ne savaient pas répondre. J'ai même une entreprise, c'était l'avant-dernier entretien d'ailleurs que j'ai passé avant d'être chez Apprenti Weber, qui m'a dit « je ne comprends pas la question ».
Alors, tous les recruteurs qui nous écoutent, et ils sont nombreux parce qu'on a des candidats auditeurs et il y a aussi des entreprises et des recruteurs qui nous écoutent, préparez-vous à cette question-là, parce que Dorit a une très grosse communauté sur LinkedIn. Et puis, de toute façon, c'est dans l'air du temps. En 2022, on dit que le sujet sera le sujet de la marque employeur. Mais donc, l'effet inverse, c'est que ce sera aussi l'année de la marque candidat. Et les candidats seront également intéressés par vos valeurs humaines, le projet humain. Donc, je trouve que ta question est intéressante. Alors, je voudrais préciser, tu as parlé du choix du roi tout à l'heure. Pour les auditeurs qui ne sauraient pas ce qu'est ce fameux choix du roi, en fait, ce que j'appelle le choix du roi, c'est quand on a beaucoup prospecté, qu'on a beaucoup candidaté, qu'on a beaucoup attendu, qu'on s'est beaucoup désespéré, puis qu'à un moment, toutes les offres arrivent en même temps et que là, on a le choix du roi et on est beaucoup moins demandeur d'emploi, on se sent en position de force et ça permet de négocier, ça permet d'avoir le plaisir de dire non, ça permet aussi de s'imposer parce que il n'y a pas que les entreprises qui peuvent faire la loi et imposer leur loi. C'est ce qu'on appelle le choix du roi. Alors, jusqu'à présent, le maximum d'entreprises au niveau du choix du roi, c'était 5. 200, c'est un peu rare, je ne te le cache pas. Et ça nous montre aussi quelque chose, c'est que maintenant, les recrutements vont se faire différemment. Ça va être quand tu penses que quand tu candidates, quand tu réponds à une offre d'emploi, tu as à peu près zéro réponse. Et je pense que tu avais peu de réponses, d'après ce que tu disais, et qu'il suffit de publication pour avoir 200 entreprises qui te contactent. Ça paraît complètement fou.
Ah oui, non mais ça l'est complètement. Ça, je m'attendais pas à ça. Je t'avoue que j'ai été un peu dépassée. Et en fait, si tu veux, j'ai inversé la tendance parce que tu vois, tout à l'heure on discutait d'un truc. On va faire rentrer un peu les auditeurs dans les backstage. Et je te disais qu'en fait, tu sais, dans un entretien d'embauche, le recruteur est très attentif au pitch du candidat. Et on va pas se cacher que des fois, le candidat remet en question son CV. Ça, c'est toi qui me l'avais dit. Parce qu'il se dit que voilà, si l'entretien fonctionne pas, c'est que le CV est pas bon. Mais finalement, si le candidat a des entretiens, c'est que le CV est bon. Le problème, c'est le pitch. Et quand le pitch est pas bon, le recruteur n'écoute plus. Parce que c'est un rapport, on va dire, de séduction, de vente. Bon, je sais que t'aimes pas, moi, j'aime pas trop ce mot, mais je sais que toi,
c'est une façon de se vendre. Je reste sur mes positions, bien que Dorit ait raison sur plein de sujets. Pour moi, un entretien, c'est aussi un entretien de vente. Et dans un entretien de vente, on doit pitcher. Et je confirme complètement, quand les premiers mots ne conviennent pas, n'interpellent pas, on n'a pas envie d'écouter la suite. Et donc, ce que tu veux dire, c'est que tu faisais pareil avec le pitch des entreprises.
C'est ça, en fait. C'est ça. Du coup, en fait, les employeurs n'écoutent plus quand ils estiment que le pitch n'est pas intéressant parce qu'ils se disent quoi ? Ils se disent, ça ne va pas être lui. c'est pas le candidat qu'il me faut, il m'intéresse pas, il est pas, voilà, il a pas réussi à me séduire. Bah, franchement, je te dis la vérité, moi, c'était la même chose avec les entretiens que j'ai passés, parce que quand j'ai une boîte à qui je demande c'est quoi votre projet humain, et que derrière, il me dit je comprends pas la question, et que du coup, bah, par exemple, je lui dis bah, pourquoi vous considérez que vous avez un engagement vraiment personnel et dont vous êtes fier, en fait, je sais pas, que ça peut être écologique, etc., et qui me dit, je vous avoue que je me suis jamais posé la question. J'écoute plus. On est au-delà de ça. Psychologiquement, je me dis, c'est pas lui. Donc, c'est pour ça que je te fais ce parallèle-là, à dire que je me suis mis dans la position d'un recruteur. Au moment où il estime que le pitch du candidat n'est pas bon, il se dit, c'est pas lui, je le sais, donc j'écoute plus. Bah, moi, c'était la même chose. Donc, en fait, on a inversé les sièges, et c'est un rapport assez fou. Bon, là, je te fais le parallèle par rapport à ce cas assez extrême d'engagement humain, mais je t'avoue qu'il y a eu d'autres moments dans les entretiens où on n'était pas sur cette question-là. Mais tout simplement, voilà, j'aimais pas le projet, ou j'aimais pas la façon d'amener les choses, ou ça peut être même l'attitude, tu vois. Surtout quand c'est le N+1, où tu te dis « Ah, je me vois pas forcément travailler avec cette personne-là ». Et psychologiquement, je me disais « C'est pas lui ». Et comme j'étais pas en galère, parce que j'avais plein de sollicitations, j'avais ce luxe-là de presque arrêter d'écouter, avec beaucoup de respect, hein. Je fais l'entretien jusqu'au bout comme il faut, mais de me dire « Voilà, ça sera pas lui, et je le sais ». Donc, il y a un mécanisme complètement fou de se dire « j'ai des ressources derrière, j'ai plein d'annonces, j'ai plein de sollicitations, si c'est pas lui, ça sera un autre, quoi. »
Tu étais tout simplement en position de force.
Ouais, c'est ça.
Ce qui est rare et qui fait du bien. Et alors, je voulais te poser une question. Est-ce que quand tu étais en contact avec les recruteurs, tu te posais toujours cette question, qui est-il ? Tu sais, tu as parlé du N+1, mais est-ce que parfois, même quand il n'y avait pas un bon ressenti, tu pouvais te dire, mais... C'est un recruteur ou c'est un intermédiaire ? Est-ce que tu avais quand même ce réflexe-là ? Parce que tu sais que c'est le cas de quand même beaucoup d'entreprises qui font appel à des recruteurs externes qui ne les représentent pas vraiment, tu vois, intrinsèquement, notamment au niveau des valeurs. Est-ce que tu en tenais compte ou est-ce que tu dégageais tout simplement ?
Alors, je t'avoue que je t'en avais parlé pareil en off. Dans mon expérience personnelle, les recruteurs sont une légende urbaine. C'est-à-dire que moi, je ne suis que sollicitée par des patrons d'entreprise, ceux qui auront été mes N+1. Franchement, dans ma vie, j'ai dû être sollicitée par un recruteur externe. Du coup, la question se posait pas. À chaque fois, je savais que je passais l'entretien avec un directeur artistique, avec un CEO. Donc, j'ai pas eu cette question-là à me poser, si tu veux.
D'accord. Donc, c'était peut-être aussi lié à ton métier, à ta profession, peut-être au full travail. On sait pas, hein. Donc, c'est un cas particulier.
Ouais.
Et alors, justement, par rapport à ce que tu as vécu, toutes ces sollicitations, ce qui est arrivé suite à tes posts, cette très grosse visibilité, cette très grosse viralité de tes publications, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un avec toute la prudence qu'il faut avoir, parce que être visible, c'est attirer des jolies choses et des moins belles choses, et je pense notamment aux haters sur les réseaux sociaux.
Bien sûr, mais tu sais que les haters, ça pourrait être l'objet d'un podcast déjà tout court, parce que c'est quelque chose qui freine énormément les gens pour poster, parce qu'ils ont peur de la critique. Je reçois énormément de messages de gens déjà qui me disent « Dorit, comment tu fais pour les gérer ? Parce que moi, je poste rien, parce que j'ai peur de me faire attaquer. » Donc, en fait, déjà, je voudrais passer un avertissement, parce qu'il faut quand même être lucide 2 minutes. Quand vous postez, en vous engageant sur des histoires personnelles comme je le fais, vous vous exposez, en fait, à des personnes qui vont vous juger. Ils n'ont pas à le faire, c'est déplacé, c'est pas normal, mais ils vont le faire. Ça fait partie du jeu, c'est les réseaux sociaux. Sur LinkedIn, ne fait pas exception à la règle. Donc, il faut prendre conscience, en fait, du bon et du moins bon. Vous allez avoir des personnes qui ne vous connaissent pas, qui ne savent pas qui vous êtes, qui ne savent pas ce que vous avez vécu. Donc, il faut avoir, si vous en êtes capable, le recul de se dire ça et de voir tout le positif que vous pouvez avoir derrière. Moi, je vais parler pour ce que j'ai vécu. Ça a été incroyable, vraiment. Et si je dois vous donner un chiffre pour parler très concrètement, j'ai eu 98% de positivité suite à mes posts, 2% de négativité que je choisis parce que j'ai appris à le gérer. d'en rire, parce que tous les vendredis, mes pires commentaires, j'en ai fait un carrousel. Je mets les captures d'écran avec mes réponses, parce que moi, je leur mets des punchlines en réponse, pour en fait dédramatiser la chose et encourager les gens à poster. Donc moi, j'ai juste envie de dire aux gens, racontez si vous vous sentez la force de le faire psychologiquement, ça en demande. Racontez vos histoires personnelles parce que vous allez aider des gens. Les réussites n'intéressent personne. Moi, je tiens à le dire, pour moi, exposer ses réussites sur LinkedIn, ça fait complexer tout le monde. C'est quelque chose qui peut être très toxique et ça n'intéresse personne. En tout cas, moi, pour ma part, quand je vois des posts comme ça, c'est pas porteur. Par contre, quand vous parlez de vos échecs, c'est porteur parce que vous passez des messages, vous aidez des gens. Donc déjà, humainement, il y a quelque chose de bien qui se passe. Et derrière, si vous êtes en recherche d'emploi, là, dans le cas actuel, on parle de ça, comme ce qui m'est arrivé, vous allez intéresser des recruteurs, des entreprises qui vont se dire « son point de vue, sa façon d'exposer les choses, son humanité m'intéresse ». C'est ce qui m'est arrivé avec Apprenti Webber. Hein. Je veux quelqu'un d'humain comme ça dans mon entreprise. Et là, il va se passer quelque chose de complètement fou, c'est qu'on va même pas vous demander votre CV. Moi, mais sur tous les entretiens que j'ai passés suite à mes sollicitations, franchement, on a dû me demander mon CV une ou deux fois, quoi. On m'a recruté sur l'humain, sur les valeurs qu'ils ont vues. Donc, en fait, c'est magique.
Alors, c'est d'autant plus magique que nous nous battons tous pour faire en sorte qu'un jour, on ne recrute plus personne avec un CV. Donc, toi, tu as montré que c'était possible. Alors, c'est vrai que tu as utilisé LinkedIn. C'est plus qu'un CV, c'est une vitrine, finalement, professionnelle. Donc, je pense que c'est ta vitrine qui a aidé parce que les gens sont allés sur ton profil, qui est un profil qui est quand même joliment décoré. Et puis, ils sont allés dans ton profil, dans ton activité. Ils ont vu tout ce que tu postais. Ils sont intéressés par ce que tu écris, parce que tu écris bien. Ils sont intéressés par ton angle d'attaque, ton approche, ton côté humain, la manière dont tu réponds aux commentaires. Mais ce qui va les intéresser aussi, et il ne faut pas se le cacher, c'est ton influence. Et ça, ça a beaucoup de valeur. Et je voudrais aussi le dire aux chercheurs d'emploi, c'est que si vous êtes sur un réseau social, que vous publiez beaucoup, que vous avez beaucoup d'abonnés, que vous avez de la viralité, que vous avez du poids, vous êtes un potentiel ambassadeur pour une entreprise. Et quand on sait ce que coûtent les campagnes de communication à l'heure actuelle, et même les campagnes de communication sur les réseaux sociaux, ça a beaucoup de valeur. Et je voudrais interpeller notamment les jeunes qui ont peu d'expérience, mais qui maîtrisent les réseaux sociaux avec une aisance un peu intuitive et qui peuvent être des influenceurs avant même d'avoir une expérience professionnelle et qui peuvent vendre finalement cette influence aux entreprises. Qu'est-ce que tu penses de ce deuxième volet aussi ? Est-ce que, selon toi, il compte ou pas ?
Ah, il compte complètement. Et je te cache pas que je pense aussi que c'est beaucoup pour ça qu'on m'a contacté, parce que mon domaine est la communication. J'ai quand même des codes par rapport à ça. Ils le voient. Et aujourd'hui, toutes les entreprises cherchent à être visibles. Et ça passe notamment par LinkedIn. Et en fait, comme tu disais si bien, les employés sont les premiers ambassadeurs d'une entreprise. Et si déjà, de base, tu as une visibilité, tu vas annoncer à ta communauté que tu es dans cette entreprise, ils vont s'y intéresser, tu vas monter en abonnés. Parmi les gens qui vont s'abonner à toi, il y aura plein de potentiels clients. Et en fait, c'est une campagne de pub et de com gratuite pour l'entreprise. Moi, dans mon domaine, si tu veux, c'est que du bonus. Et même dans d'autres domaines, quelqu'un qui arrive à être visible sur les réseaux, c'est un peu ce que chaque entreprise espère, je pense.
Et alors, un moyen d'être visible, c'est de raconter des histoires, comme tu l'as fait. J'ai trouvé intéressant ce que tu as dit, parce que parfois, on voit dans les publications des gens qui disent « parlez de votre succès, ça va motiver les autres, racontez des belles histoires, ça va motiver les autres ». Et je partage un peu ton avis quand je lis des histoires qui paraissent un peu fausses ou un peu exagérées, ou des chiffres qui sont donnés, j'ai fait des millions de vues, j'ai toujours peur, je me dis toujours « mais qu'est-ce qui se passe dans la tête des nouveaux qui arrivent sur ce réseau ?» qui sont un peu perdus et qui se disent « mais j'y arriverai jamais ». Alors que l'avantage, en partant un peu de ses failles et de ses faiblesses, mais ce qu'il faut préciser quand même concernant les histoires que tu racontes, c'est que tu parles de tes échecs, mais que tu les transformes de façon positive à la fin. Je pense que c'est ça qui interpelle le lecteur.
Exactement. En fait, dans mes posts, je suis jamais tournée sur moi-même. C'est-à-dire que j'explique mes échecs, j'explique après, derrière la suite, l'épilogue qu'il y a eu, quels enseignements j'en ai tirés, quelle évolution j'ai eue par rapport à cet échec, et surtout, le message d'espoir. Il y a toujours un message d'espoir pour les autres, pour montrer que tout est possible, qu'il faut croire en soi, que rien n'est figé. Et ça, c'est très important parce que, je pense que sincèrement, le monde est suffisamment égocentrique pour qu'on soit toujours encore plus sur les réseaux tournés vers soi, à dire « j'ai fait, regardez-moi ». Et au final, tu passes rien comme message. En fait, c'est juste « j'ai vécu ça, point ». La personne, elle dit ça, ça n'apporte pas grand-chose, finalement. Et donc, je pense qu'il faut toujours terminer, et ça, c'est important, quand on fait un témoignage, par se tourner vers l'autre et expliquer, en fait, comment l'autre peut en faire une force de ton histoire. Et c'est là où t'es vraiment dans l'échange. Et on va se le rappeler, je suis désolée, mais les réseaux sociaux, là-bas, c'est de l'échange, c'est du partage. Et c'est pas du nombrilisme. Donc moi, quand je vois des posts, je suis passée de 0 à 100 000 likes en 24 heures, j'ai envie de dire, mais c'est terrible. C'est terrible. Quelqu'un qui est là depuis une semaine sur LinkedIn, qui a 2 likes sur ses posts, moi, j'ai envie de quitter le réseau. Moi, si je commence et que je vois ça, je me dis, mais en fait, je vais pas dire le mot, mais je suis une bouse, quoi, tu vois.
Et tu dis un terme très juste, tu parles d'échange, parce que ce qu'il faut savoir aussi, parce que s'il y a des auditeurs qui veulent se lancer dans des publications un peu de témoignages, il faut aussi qu'ils se préparent aux échanges, c'est-à-dire aux commentaires, aux réponses aux commentaires, parce que toi, tu réponds aux commentaires, aux messages privés qui arrivent et auxquels il faut répondre aussi, c'est que c'est beaucoup, beaucoup de travail derrière une publication. Il ne faut pas se dire « je publie et ça va cartonner parce que c'est un témoignage, parce que je raconte tous mes malheurs ». Il y a beaucoup d'interactions derrière. Tu parlais aussi des interactions avec les haters, ce qu'on appelle les trolls, ceux qui viennent un peu diffamer les posts. Donc, ils vont tous avoir peur maintenant de Dorit, parce que, alors là, c'est un message aux haters qui pourraient nous écouter, elle fait des captures d'écran et après, elle vous met à l'affiche sur des publications. Donc, faites attention un petit peu. Mais bon, c'est tout ça. C'est l'inter-échange et il faut être présent.
Ah, complètement. Oui, mais c'est un investissement émotionnellement. C'est un investissement aussi. J'estime quand même que c'est important de le dire parce que quand vous faites des témoignages, vous vous engagez en fait implicitement, sauf si c'est exclusivement pour les likes et les vues, ce que je n'espère pas, à recevoir énormément de témoignages de gens qui ont vécu la même chose, que ça soit en commentaire ou en message. Donc c'est une charge émotionnelle qui est considérable. Il faut aussi arriver à gérer ça, à recueillir la difficulté aussi de beaucoup de personnes. Donc c'est impressionnant au début. Après, ça dépend de la viralité du poste, c'est toujours pareil. Mais entre cet engagement émotionnel-là, le temps que ça prend de répondre aux commentaires, moi, pour ma part, je fais au maximum pour répondre aux commentaires parce que j'estime que les gens m'ont accordé du temps, déjà pour lire mon poste et pour me mettre un commentaire. Donc par respect pour le temps qu'ils m'accordent, je dois leur rendre ce temps-là. Donc je fais au maximum pour ça. Donc ça, c'est du temps, c'est de l'énergie. Donc il y a un investissement. Il y a l'investissement aussi émotionnel du côté où, entre guillemets, vous vendez votre vie, vous vendez votre histoire. Et ça peut paraître bête, mais c'est super difficile.
C'est une mise à nu.
Oui, c'est une mise à nu. En fait, vous vous exposez aux gens et vous savez pas comment derrière ça va être perçu. Donc déjà, il y a ça, c'est le fait d'appuyer sur publier, déjà, c'est compliqué. Et voilà, donc il y a tout ça, il y a la préparation aussi du poste. Essayer de pas tomber dans le pathos aussi, ça c'est super important, de rester factuel. Le fait de passer ce message d'espoir, il y a une structure à avoir, parce que c'est pas le tout de faire un témoignage. Oui, faut le faire, faut être authentique, etc. Mais il y a quand même une structure. On doit quand même rester dans des faits et pas non plus, je sais pas comment dire, mais en faire des caisses.
Et justement, pour la dernière partie de cette émission, est-ce que tu pourrais nous donner quelques trucs et astuces de storytelling ? Quel est ton titre ? Par quelle phrase d'accroche tu commences ? Comment tu organises ton poste ? Comment tu le conclus ? J'ai remarqué, par exemple, que tu sautais des lignes. Alors moi, je le fais beaucoup aussi. Tu fais des lignes avec un saut de ligne à chaque fois pour que ton texte soit très aéré. Est-ce que tu utilises les 3000 caractères ? Quels seraient les conseils de storytelling que tu pourrais nous donner ?
« je lis beaucoup de témoignages de gens qui ont un vécu très, très, très difficile et qui osent témoigner, mais la structure est très mauvaise. Et ça me fait de la peine parce que du coup, ils n'ont aucune viralité, aucune portée, parce que soit c'est extrapolé, soit c'est en un bloc, etc. Il y a une structure à avoir. Donc moi, comment je fais ? Moi, tu lis la première phrase de mon poste, t'as compris mon poste. Donc ça, déjà, c'est super important parce que, en fait, le bouton « voir plus » sur LinkedIn, il faut jamais l'oublier. Il arrive très tôt. C'est au bout de deux phrases, en fait, deux lignes. Donc, il faut tout de suite, en fait, que la personne qui soit sur son feed et qu'elle voit ton poste, elle lise les deux premières lignes et qu'elle ait envie d'appuyer sur ce bouton « voir plus ». Si déjà, dans les deux premières lignes, elle n'a pas compris ce que tu veux dire, la concurrence, elle est énorme. Il y a des millions de personnes sur LinkedIn, elle va scroller, elle n'ira pas lire ton histoire. Donc déjà, il faut attraper le lecteur pour le mettre en immersion dans ton histoire dès le début. Ensuite, le saut de ligne, c'est pour... Je suis très critiquée sur ça. Enfin, très critiquée, j'abuse. Mais je veux dire, à chacun de mes posts, j'ai au moins une personne qui, malgré la force de mes propos, que ça soit du harcèlement sexuel, etc., ne retient que ça. Bon, c'est assez triste, mais j'ai toujours au moins un commentaire. Le saut de ligne me dérange. Alors, je peux comprendre, mais moi, c'est un parti pris. C'est pour aérer mes idées, parce que mes témoignages sont quand même forts. J'ai besoin de mettre de l'espace entre chaque idée. Et personnellement, en fait, moi, je vais donner un conseil qui est très personnel. Observez-vous. Observez vos réactions par rapport au poste des autres. Personnellement, je vois un poste d'un blog, je ne lis pas. Je ne lis jamais. Je sais pas, psychologiquement, ça me braque, ça me bloque. Je trouve ça indigeste. Donc, comme moi, je ne vais pas le lire, je me dis je ne vais pas faire ça parce que les gens ne liront pas si je fais la même chose. Donc, j'aère chaque phrase. Psychologiquement, je trouve ça beaucoup plus confortable. Et donc, déjà, il y a ça, il y a cette technique de saut de ligne. Ensuite, je ne tombe pas dans le pathos. Je ne me victimise jamais. J'essaye de caser 2-3 phrases à chaque fois dans mes témoignages en expliquant mon état émotionnel, parce qu'on peut pas, dans un post-témoignage, juste dire « il s'est passé ça à 14h, ensuite à 16h, il s'est passé ça, c'est pas un rapport de police non plus. » Donc, voilà, on est dans l'humain, dans l'authenticité, il faut dévoiler ses failles jusqu'au bout. Et c'est ça qui va toucher les gens, et c'est ça la sincérité, et c'est ça qui va faire que la personne, elle va s'identifier à vous. Donc, ça passe par tout ça. Essayez au maximum d'aller à l'essentiel, ce qui est très paradoxal avec ce que je vais te dire maintenant, qui est que moi, j'atteins très régulièrement les 3000 caractères, mais au caractère près. Mais pourtant, je fais au maximum d'aller à l'essentiel, c'est juste que mes histoires sont très très riches en fait. Il se passe, beaucoup de rebondissements, on va dire. Donc, essayez au maximum d'aller à l'essentiel. Il y a beaucoup de choses dans votre histoire qui seront pas utiles, pas pertinentes. Donc voilà, surtout restez concentrés sur votre sujet et ne négligez surtout pas la dernière phrase, la première et la dernière phrase. Parce qu'en fait, vous allez faire un témoignage qui va être hyper poignant, mais le lecteur va rester, admettons, sur une dernière phrase qui va lui faire un effet bof. Et cet effet bof, elle fera en sorte que ça va casser tout l'effort que vous avez fait avant, et en fait, c'est juste hyper dommage. Donc, mettez l'effort dans la dernière phrase, et si possible, que cette dernière phrase fasse partie de votre message d'espoir, et qui, bien évidemment, du coup, doit être à la fin. Et c'est là que vous allez créer de l'engagement, et du coup, les gens vont... ça va développer, en fait, de la reconnaissance, qui est normale, où du coup, les gens vont réagir, comme c'est le cas dans mes posts, et vont dire « Merci, ça m'a fait du bien de lire ça, c'était inspirant. »
Alors, ce qui se passe autour de tes histoires, c'est que les gens les lisent jusqu'au bout. J'ai remarqué ça en commentaire, c'est un commentaire qui revient assez souvent. J'ai remarqué aussi que tu utilises peu de hashtags.
Jamais.
Tu identifies rarement les gens ou une personne. Tu n'utilises pas d'emoji non plus, ou très peu. Ce sont des textes très épurés, un peu comme si tu nous racontais une histoire, mais sans toutes les fioritures liées à tous ceux qui veulent vendre certaines choses sur LinkedIn.
Oui, complètement. En fait, J'aime bien le terme épuré. Encore une fois, c'est très paradoxal parce que j'atteins souvent les 3000 caractères. Mais je le répète, c'est vraiment parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans mes histoires. Mais je fais quand même du minimalisme. Je ne veux pas parasiter la puissance de mes histoires. Je veux qu'on se concentre sur mes sujets. Déjà, je peux pas me permettre le luxe de mettre des hashtags parce que, comme je te dis, déjà, je suis au caractère près. Donc ça, pour moi, on est dans le domaine de la fioriture. Je suis désolée, je peux pas prétendre faire des témoignages sincères et authentiques et mettre des hashtags. Pour moi, le hashtag, c'est un truc de Twitter, un peu pour faire le buzz, pour rameuter des gens.
Bah attends, nous on a un hashtag hein, chez Trouveur d'emploi.
Ouais,
hashtag Trouveur d'emploi. Et on a dépassé les 2000 abonnés. Et n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs.
Non, mais
je comprends tout à fait ton propos par rapport à ça. Et alors je voulais te poser une question parce qu'il y a peut-être des gens à qui ça a fait peur. Je suis sûre qu'il y a des auditeurs qui ont été convaincus et qui se disent je vais me lancer. Pour tous ceux qui ont un peu peur, est-ce que tu leur dirais, comme moi je dis, tenter au début d'intervenir dans les commentaires pour vous faire un peu la main.
Oui, oui. Non, juste pour revenir rapidement sur le hashtag, je dénigre pas ceux qui mettent des hashtags. Non, mais je dis juste que moi, je fais des choses authentiques. Donc, pour moi, les hashtags ne sortent de cette authenticité. C'est pour ça, ce choix-là. Et les emojis, c'est pareil. Donc, on reste dans cette ligne épurée. Donc, voilà, la parenthèse est fermée. La force des commentaires, je te rejoins complètement. Tu en parles beaucoup, d'ailleurs, dans tes podcasts. Et c'est avec toi, d'ailleurs, que j'ai appris la force des commentaires. C'est très bien pour les gens qui n'osent pas poster parce que vous limitez complètement votre exposition. D'ailleurs, vous ne vous exposez pas vraiment. C'est des choses sur lesquelles vous n'aurez pas d'interaction à gérer, ou alors ça va être assez limité, mais vous avez quand même de la visibilité. Parce que j'ai vu notamment, moi ça m'est déjà arrivé, pour citer un exemple personnel, un post qui était liké à, c'était un truc genre 15 likes, j'ai mis un commentaire, mon commentaire avait genre 56 likes, plus que le post. C'est pour dire, en fait, à quel point ça peut même dépasser, en fait, la puissance du poste sur lequel vous allez. Donc, votre visibilité, elle est là. Derrière, vous allez intéresser les gens sur vos visions, vos idées. Il y a tellement de formes de commentaires. Florence Marty, qui pour moi est la reine incontestée des commentaires, qui arrive à faire des thèses, des antithèses, c'est voilà, toujours très fourni. Il y a un autre style, bon ça c'est plus le mien, c'est des commentaires humoristiques. Quel que soit votre style, vous allez interpeller des gens et ça peut générer des opportunités professionnelles, des demandes de connexion, une communauté. Il y a des gens, tu le disais si bien dans tes podcasts, qui ne fonctionnent qu'en commentaires.
Bon, mais ça me rassure que tu penses la même chose. Pour terminer l'émission, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'apprenti Weber. Qu'est-ce qui, quand tu parles de ce manager qui est quelqu'un de très humain, qu'est-ce qui l'a intéressé dans ce que tu publiais ? Comment s'est fait votre rencontre ?
Alors, c'est une histoire complètement folle, mais quand je te dis folle, c'est vraiment surréaliste. En fait, j'ai fait un post par rapport à Pokémon. J'ai fait une analogie entre Pokémon et le monde du travail. Et il m'a contacté, je ne savais pas qu'il avait vu ce post. Et donc, on passe l'entretien, il a un pull Pokémon. Et c'était dingue.
Donc, il s'est adapté à toi.
Mais oui, mais je lui ai dit, mais est-ce que c'est un hasard ? Et parce que j'ai trouvé ça fou, on m'avait jamais fait ça, tu vois. Et il me fait pas du tout. Je vous suis depuis le début. J'adore ce que vous faites et je trouvais ça super bien. Voilà. Donc je voulais vous montrer que je m'intéresse à vous et que je vous veux vraiment quoi. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est j'ai réussi à retourner le processus jusque-là. Alors que généralement, c'est le candidat qui fait des efforts vestimentaires, d'attitude, de tout. Donc, une folie. Et derrière, il m'a énormément touchée. Et c'est là où j'ai su que mon choix était fait. C'est que du coup, en fait, j'ai même pas eu à lui poser cette question. C'est quoi votre projet humain ? C'est qu'en fait, il me parle d'une association qu'il a créée. Parce que son enfant, en fait, est autiste. Donc, il n'était pas adapté au système scolaire habituel. Forcément, ça l'a mis dans une situation de colère, de frustration, ce qui est normal. Et il a créé une association d'école inclusive pour, en fait, créer deux écoles inclusives. Et tous les bénéfices de la société sont reversés à cette association. Donc voilà, dans ces écoles-là, il y a des enfants autistes et non autistes, d'où le terme inclusif. Et en fait, je suis restée bouche bée et je me suis dit, bah alors là, ma fille, tu voulais de l'humain, t'en as. Et en fait, je suis vraiment restée sur ce truc de me dire, il m'a pas demandé mon CV. Donc déjà, il voit mon côté humain. Lui dégage une vraie humanité. Il a passé l'entretien à me dire que l'employé était au centre de tout. Full télétravail. Voilà, une flexibilité sur les horaires. On travaille quand on veut, mais tant que le travail est fait. Une confiance, tu vois, et c'est là où tu vois l'évolution du monde du travail, et t'es fière de bosser pour une boîte comme ça, parce qu'elle représente justement cette évolution-là. C'était un carton plein pour moi, et vraiment, enfin, je t'avoue que j'ai rarement eu un entretien où j'étais autant convaincue, et c'était très puissant, vraiment.
Je sens que suite à ce témoignage, ils vont recevoir beaucoup de demandes de candidats. Est-ce que tu peux nous donner le nom de ton manager puisqu'il est sur LinkedIn ?
Oui, bien sûr, c'est Jérémy Enorni.
Et écoutez, coucou Jérémy.
Ouais, bah gros coucou Jérémy qui est vraiment au top. Bah on est devenu amis avec Jérémy parce que si tu veux, c'est une boîte c'est très familial et moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ce côté humain, j'aime pas le côté distant et je retrouve ça complètement. Donc de la vraie humanité, pas la bienveillance baby-foot.
ou pouf en grain, ou machine à jus de fruits. Ou...
ouais, voilà, c'est variable.
Ou licorne.
Ouais, voilà, ça s'adapte. Et du coup, chez Apprenti Weber, on est créateur de contenu pédagogique pour les organismes de formation et les écoles.
Eh bien, écoute, on va s'arrêter là sur cette belle histoire. Merci beaucoup, Dorit, pour ce témoignage et pour tous les conseils que tu nous as donnés. J'espère que sur LinkedIn, il va y avoir maintenant un peu plus de 1% des membres de LinkedIn qui vont poster et publier grâce à toi parce que tu leur as donné envie. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin ?
Oui, un énorme merci pour l'invitation, je le répète. Et merci à toi pour tout ce que tu fais tous les jours pour les chercheurs d'emploi. Qui, du coup, grâce à toi, deviennent des trouveurs d'emploi. Ta chaîne YouTube est incroyable. Ce que tu fais avec Martine Sophie, c'est trop drôle. Et en même temps, on apprend plein de choses sur les recrutements. Donc, j'invite vraiment ceux qui nous écoutent à aller aussi regarder tes vidéos YouTube. Parce que vraiment, c'est vraiment du bijou, quoi.
Merci beaucoup, Dorit. On fait un coucou à tous les auditeurs et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode, toujours et encore avec Dorit. Au revoir.
Au revoir tout le monde.
Merci d'avoir écouté Trouveur d'emploi. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez faire connaître ce podcast au plus grand nombre, mettez-nous des étoiles.
Vous venez d'écouter Trouveur d'emploi, un podcast du magazine Management présenté par Christelle Defoucault et réalisé par Lucas Vibault.